commencer cet entretien avec Monsieur le maire. Merci à lui tout d'abord d'avoir répondu présent. Nous avons reçu un courrier de Monsieur Benoît Simian qui ne pouvait dégager du temps, son emploi du temps pour venir nous voir. Quant à Pascale Gaud, notre conseillère départementale, elle est à l'étranger. Donc c'était un peu compliqué pour elle. Donc heureusement, nous avons notre maire ici présent pour répondre à nos questions. Tout d'abord, il voulait intervenir sur ce qu'il a entendu, parce qu'il est aussi adhérent. Donc en tant que... L'adhérent a eu des infos données au maire. Donc quelques mots sur ce qui a été dit au cours de cette Assemblée Générale.
Alors merci Monsieur le Président, cher Alain. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vois qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus au rendez-vous de 11h. Alors c'est vrai que je fais la première partie en tant qu'adhérent, puisque je suis adhérent depuis presque 15 ans. Je salue d'ailleurs le président qui m'a mis le pied à l'étrier. Je remercie le président Jean-Pierre Millard, c'est lui qui m'a mis un peu le goût des affaires de la commune, même si j'y trempe depuis très petit. Il m'a incité à continuer dans ce sens-là. Je vois Yves Tartas, mais Nathalie aussi, qui a été présidente avec laquelle j'ai travaillé. Donc c'est tout à fait agréable de participer à cette première partie, bien que la soirée d'hier soir s'est finie un peu tard, moi aussi. Les occupations du week-end de Pâques sont toujours importantes. Je voulais revenir sur deux, trois petits points. Vous avez parlé beaucoup de vos interventions dans les médias. Elles sont tout à fait récentes. Et vous avez dû ressentir sans doute la même chose que nous à chaque fois, qu'on sort toujours un peu frustré. Ce Barat est en rond là-bas, je l'ai vu aussi m'a transmis son intervention lors de cette interview, parce que les médias s'amusent un peu toujours à couper les interviews, donc ça n'a plus de sens finalement ce que l'on dit. Donc ce qui nous est arrivé ces derniers temps n'était pas très agréable. L'article du Monde, lui, a été bien construit. Le Figaro avait fait aussi de très très beaux articles. Et toutes les chaînes qui étaient venues dans les trois dernières années avaient travaillé le sujet avant de venir à la Canon faire des reportages. Et ça, c'était intéressant parce que nos techniciens, mais aussi les élus de la ville, ont pu leur expliquer la stratégie depuis 2009 et ensuite depuis 2014 avec la stratégie locale sur l'étude de la localisation des activités et des biens. Et on apprécie, quand on passe dans les médias, d'avoir la juste information. Là, finalement, l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de nous désunir sur le sujet. On a les mêmes intérêts à défendre, hein. C'est l'avenir de la Canon et de la Canon Océan. Donc, c'est toujours un peu la frustration que l'on ressent.
C'est ce que, justement, on avait fait le Noël 2016, quand j'avais été contacté par une journaliste de France 2 pour un 20h, qui voulait absolument entendre des habitants de la Canon Océan. Donc j'ai écouté oui, je vais vous appeler, donc je pensais déjà à contacter 2-3 adhérents. Seulement, parallèlement à ça, je suis allé voir ce qu'elle faisait, cette dame. Et j'ai rapidement vu que la façon dont elle traitait les sujets était assez polémique. Et à son ton, je voyais qu'elle voulait interviewer absolument des gens qui, en fin d'année, avaient peur de tout, craignaient de voir l'océan se submerger leur maison. Alors même que nous étions plutôt en train de préparer les fêtes de fin d'année, et le sujet administratif qui nous occupait vraiment, c'était la création de la communauté de communes, quelques semaines après. Donc j'avais contacté le cabinet du maire pour lui dire bon, attention, on est contacté par cette personne. J'avais trouvé des adhérents qui allaient, donner le bon discours, entre guillemets, et c'était la façon vraiment de ne pas aller dans son sens. Et j'ai eu contact avec le directeur de cabinet qui m'a dit effectivement cette dame-là voulait absolument déambuler dans la station pour voir des maisons qui sont en train d'être englouties par les flots. Alors c'est vrai que depuis Paris, pour des journalistes qui ne creusent pas le sujet, entre le Signal et la Canon Océan, ils ont été fait de faire un raccourci. Donc effectivement, il est important sur des sujets. Alors, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, comme vous allez pouvoir le voir dans les minutes qui viennent, mais sur celui-là, qui concerne l'avenir de la station, l'image de la station. Et j'allais dire, et pour les plus anciens d'entre nous, pour les plus anciens adhérents de l'APLO, c'est aussi, on en revient au cœur même de la création de l'association, c'est la valeur patrimoniale de nos biens. À force d'avoir des discours, qu'on nous dise n'importe quoi, et que, sans aucun fondement, et qu'on fasse peur aux gens, ça influe aussi sur notre quotidien. Donc c'est effectivement, ça c'est important, et on joue là-dessus. Et là encore, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur ça, on est d'accord.
Alors, je voudrais quand même vous rassurer, l'attractivité de la Canon ne se dément pas, mais il faut quand même faire attention. On a fait quand même beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Hein. Le prochain grand forum, c'est au mois de juin dans cette salle. On aura les premières études sur les déplacements des sédiments, sur les projets, sur la stratégie 2018-2050. Donc c'est au mois de juin dans cette salle. Mais il faut faire aussi très très attention, puisque le journaliste qui est venu en 2018, je ne citerai pas la chaîne d'information, est arrivé en nous demandant où étaient les villas qui avaient été inondées et celles qui allaient être détruites. Donc, j'imaginais qu'on partait de loin, j'avais l'impression de revenir en 2014, il me fallait donner les mêmes explications. Donc je peux vous dire que je ne suis pas resté très longtemps en France de mer, nous l'avons d'ailleurs rappelé depuis, et de le diriger vers le site et qu'il apprenne la stratégie locale avant de venir nous interviewer. Je voulais revenir aussi sur un point important que vous avez cité, Président, c'est la communauté de communes. Et là, je rejoins votre analyse, il va falloir être beaucoup plus performant. Alors, pas qu'au-delà des associations, sur l'information, mais vous, administrez. Aujourd'hui, si je vous interroge un par un, vous allez peut-être avoir un peu de mal à me dire quelles sont les compétences de la communauté de communes, avec qui on est marié, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Donc, ça fait déjà un an et trois mois que nous sommes ensemble. Ça fait un an et trois mois que je réclame la mise à jour du site internet, un document papier qui puisse informer les administrés de ce qui s'y passe. Donc, ce n'est pas aux associations, elles le font à travers la formation des adhérents, mais la responsabilité qui nous incombe, nous, élus, c'est de bien communiquer. Et je crois qu'il faut mettre à l'image de ce qui est fait dans la commune à travers la stratégie de notre communication, la même communication au niveau de la communauté de communes.
Tout à fait, la CDC Médoc-Atlantique n'a pas de site internet, alors que la CDC, l'ancienne CDC, notre ancienne CDC de la Médocain, avait un site internet et communiqué. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on va avoir les infos, mais il faut se déplacer. Donc nous aussi, de notre côté, en tant que responsable d'association, on va avoir le nœud DGS de la CDC pour leur dire quand est-ce que ça bouge, quoi. Ne serait-ce que pour avoir l'ordre du jour, etc., c'est pas simple. C'est pas normal au regard de l'évolution administrative et de ce centre de décision qui va devenir de plus en plus le siège de la communauté de communes. Bien, nous allons passer, si vous voulez bien, aux questions avec notre maire. Je vais lancer les échanges sur un sujet pour lequel j'ai été saisi par plusieurs adhérents. Et cette question est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'elle nous rapproche d'un sujet qui nous rapproche. Bienvenue à Vive-la-Forêt. Elle nous rapproche d'un sujet qui tire ses fondements même de la création de l'APLO en 1980, c'est-à-dire la valeur patrimoniale des biens qu'ont les propriétaires de maisons ou d'appartements sur la Canne-Océan. Mais le double intérêt, c'est qu'elle tire aussi son fondement de l'évolution même de l'association qui s'est ouverte à l'ensemble de la commune. Et donc, ce sujet concerne aussi les gens, les propriétaires de toute la commune. C'est le fameux sujet des maisons remarquables. Alors, il s'agit d'une idée excellente, tout d'abord, pour avoir fait quelques études d'histoire, le principe même de valoriser son patrimoine, de s'intéresser à notre histoire, de savoir d'où on vient, pour mieux définir où on va, pour moi c'est quelque chose d'important. Pour moi c'est une excellente idée au départ. Le seul souci, c'est que sa traduction dans le PLU a fait naître dans le quotidien de nos adhérents quelques sujets. Et tout d'abord, sur la publicité, les gens n'ont pas su automatiquement s'ils étaient maisons remarquables ou pas. Seuls ceux qui vraiment s'intéressaient à l'époque au plan local d'urbanisme l'ont su. Alors si on peut lancer, Bon, alors tout d'abord, les maisons remarquables, c'est quoi? Ce sont des contrats courts pour maintenir l'identique. Alors c'est un exemple particulier que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit de la villa Marc-Alex, qui ne s'appelle plus Marc-Alex, puisque maintenant c'est Café Maritime, avec avant travaux, pendant travaux. On s'aperçoit que pour construire à l'identique, c'est compliqué, c'est-à-dire que ça engage des contraintes lourdes, forcément, c'est logique. Donc ça, c'est la première partie. Alors, on pourra disserter largement sur les histoires de permis de construire avant, pendant, après, etc. Ça, c'est un autre sujet. Là, on en est sur qu'est-ce qu'on considère une maison remarquable. Donc déjà, première chose, ce sont des contraintes lourdes à respecter par les propriétaires. Alors, si vous voulez, on va revenir un peu en arrière sur comment ça a marché. Parce que certains d'entre vous peuvent savoir vraiment de quoi on parle, d'autres non. Au tout début, nous avions donc comme fondement le dossier du conseil municipal du 13 octobre 2016 avec ces fameux grands plans. pour ceux qui ont eu, qui étaient présents lors de nos, de nos permanences. Ensuite, si jamais vous étiez, concerné par cette inscription raison remarquable et vous vouliez en sortir ou demander des explications, vous avez vu la période de l'enquête président.
Ouais. Juste là, c'est le document de 2016 sur le PLU. Oui. Mais les remarquables, remarquable, c'est beaucoup plus ancien que ça, le ciblage. Ça oui. Pas, ça fait 10 ans qu'elles sont ciblées sur le, oui. Sur le document.
Oui, le seul problème, c'est que entre les maisons remarquables telles que René a pu mettre en évidence dans ses différentes publications, et certaines autres, il y a eu quand même une belle différence sur l'ensemble de la commune. Donc, deuxième étape, commissaire-enquêteur. Bon, ben, les gens faisaient leur démarche auprès du commissaire-enquêteur, courrier, ou présence devant le commissaire-enquêteur. Et ensuite, troisième étape, il fallait prier. Un exemple concret qui a généré des incompréhensions de la part de certains adhérents. Là, ici, vous avez un exemple concret, une demande d'avis d'un adhérent, propriétaire, qui s'adresse au commissaire-enquêteur, qui est allé le voir, et pour lequel le commissaire-enquêteur dit effectivement il faudrait retirer cette maison de la liste des maisons remarquables. Bon, finalement, décision de M. le maire qui maintient, mais c'est logique, puisque c'est le maire qui a en charge ce dossier et qui est l'autorité décisionnaire, et qui maintient le bâtiment à la valeur patrimoniale. Bon. Autre cas particulier, et pour le coup, c'est l'incompréhension opposée. C'est-à-dire qu'une maison qui est remarquable, ça c'est un exemple concret, c'est dans la zone autour de U-Express, ça, ce sont les adhérents des alentours de la rue qui nous ont communiqué ce cas particulier. Au projet de PLU, la maison est remarquable. Le PLU adopté, la maison derrière n'est pas remarquable. Donc la demande n'a pas été faite par le propriétaire en question, mais a été demandée par le maire et validée par le maire. Alors là, ce qui interpelle aussi les gens du quartier, c'est que justement, ici, on est derrière cette maison en question et derrière le U-Express, qu'elle ne lui appartient pas, et que de l'autre côté, on est sur la fameuse, le fameux terrain qui avait déjà été acheté. Donc les gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce terrain avait été acheté à bon prix par U-Express à la commune pour y faire différents aménagements. Et je pense qu'à bon prix, pourquoi ? C'est-à-dire un prix inférieur à l'évaluation sur ce domaine. Et ça, je rejoins le PV du Conseil municipal du 22 septembre 2016, parce qu'il devait y faire, devait y inscrire des services, en l'occurrence des WC publics, mais ça, à la limite, il le devait déjà, parce que c'est parti du premier, de la première version du bail de construire. Pour y amener aussi un poste de transformation électrique, mais là, après tout, puisqu'on leur cède aussi le terrain où il y a un poste, bah, c'est quand même logique qu'ils leur fassent, et des places de stationnement public, et également des 14 logements qui doivent permettre un usage locatif à l'année. Donc, la double interrogation des gens du quartier, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que, à terme, pourquoi est-ce que cette maison a été déclarée non remarquable alors qu'il n'y a eu aucune demande de la part d'une personne privée et du propriétaire actuel ? Est-ce qu'il y a un lien avec une éventuelle volonté de Super U de vouloir s'étendre de l'autre côté alors même qu'ils ont bénéficié à un prix honnête d'une extension de l'autre côté ? Bref, est-ce que ça va influer sur le quotidien des riverains autour ? Et d'autre part, et l'autre remarque, ça c'est la première question, et l'autre question est beaucoup plus générale. J'ai échangé avec le propriétaire de la villa Margalex pour qu'ils connaissent un peu, qu'ils comprennent un petit peu notre position. Car comme vous l'évoquiez, quand on s'adresse aux gens par médias interposés, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours des filtres qu'on ne maîtrise pas. À titre personnel, là pour le coup je m'adresse à titre personnel, et pas en tant que président, je considère que la préservation du patrimoine c'est bien, cependant comme c'est compliqué, parfois, peut-être que le simple touche, et ça, c'est ce que j'ai évoqué dans l'édito que vous avez pu lire depuis hier, parfois quelques touches suffisent. D'ailleurs, on s'aperçoit que les propriétaires sont des gens responsables la plupart du temps. Les bâtiments les plus récents rappellent l'architecture ancienne. Donc, ce cas particulier de la Villa Margalex, on voit qu'il y a des différences, c'est pas identique. La question que je me pose, puisqu'on en est sur maintenant l'application de ce PLU, et donc la manière dont le maire va appliquer ce PLU. Est-ce qu'il va dire c'est à l'identique, c'est très bien, ou ce n'est pas identique, vous devez détruire. Moi je ne suis pas fanat, ce que je dis aux propriétaires de la Villa Margalex. Bah, on peut penser ce qu'on veut du résultat, mais ma foi, ils ont mis de l'argent dans leurs travaux, ils ont rappelé certains points. Oui, c'est vrai, il n'y a pas la terrasse. Et j'allais dire que si effectivement on considère que l'esprit suffit, le retour à des petits éléments saillants qui montrent un petit peu ce rappel de l'existant, cette touche historique, si cela suffit, et que vous en satisfaisez, pour le coup, ce serait une application tout à fait, juste et ouverte d'esprit de ce PLU, et ce qui permettrait de rassurer nombre de propriétaires dont les maisons sont remarquables et qui craignent maintenant de se dire « mais ma maison vaut plus rien parce que si je veux la vendre, il faut que je ramène tout à l'identique, j'ai pas les moyens de le faire parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens de propriétaires du Café Maritime ou de Margalette. Parfois, ce sont des maisons qui ont été transmises de génération en génération. Donc, comment allez-vous traiter ce dossier? Et donc, comment est-ce que nous, on peut le traduire pour l'ensemble des adhérents concernés par cette mesure? Merci.
Je vais essayer de faire une réponse plus courte que la question.
Si c'est possible.
Alors, vous vous appuyez sur des exemples bien précis. Moi, je vais répondre sur ces deux exemples-là, mais je vais essayer d'avoir une analyse beaucoup plus globale de la situation. Hein. Donc, pour ce qui est du Café Maritime, je m'étonne déjà, après tout ce que j'ai vu passer, que personne ne soit allé en mairie consulter le permis de construire. Donc ça m'a un peu étonné, personne n'est venu voir, je m'attendais, on avait préparé un dossier, personne n'est venu en mairie voir ce qui s'était passé. On sait, et là vous ne pouvez pas le contester, puisque l'on a fait des constats pour les municipales, mais que derrière eux aussi ont fait intervenir les assurances, que quand ils ont pris les travaux sur la ville de Margalex, quand ils ont voulu renforcer les fondations, le mur s'est effondré à l'entrée de la voiture. Donc, quelle est la responsabilité du maire? Et là, je l'assume. C'est de dire, bon, le lendemain, vous le savez tous, ils étaient dans mon bureau avec les architectes, on a commencé par leur tirer l'oreille, et ensuite on a essayé de travailler, et on leur a demandé, bien sûr, de reconstruire le bâtiment à l'identique. Donc, effectivement, quand on regarde les deux bâtiments, ce qui existait auparavant et ce qui existe aujourd'hui, on a vu qu'on avait repris certains codes, que les terrasses sur domaine public avaient aussi changé, et qu'il était important de mettre le bâtiment en harmonie. Il était hors de question, je ne sais pas si vous vous rappelez quand elle est tombée, hein, de laisser ce chantier à l'endroit où il est tout l'été en front de mer. Ça, c'était inacceptable. Il y a déjà d'autres choses qui me troublent sur ces secteurs-là, donc il était impensable de le faire. Donc nous avons accompagné sur un modificatif les gérants du Café Maritime, et je vous invite à voir le premier permis. Le premier permis, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc il y a une modification par rapport au premier permis parce qu'on a reconstruit plus en surface que ce qui était dans le premier permis, puisque le mur est tombé avec la toiture, donc ils ont tout refait à neuf, et dans l'intérêt à la fois des consommateurs et du bien vivre de l'entreprise, il était bien qu'ils aménagent ainsi. Donc c'est un cas bien particulier, et nous avons mis notre touche, et vous le savez, Président, qu'on le fait à chaque fois qu'on a des dossiers sur l'intégralité de la ville, j'ai un attachement particulier à l'architecture, et on essaie justement de rappeler les petits éléments que vous avez évoqués. Je reviens au deuxième sujet avant d'en faire une analyse globale. Depuis le début du mandat, avec l'ouverture du Express, les problèmes de cohabitation avec le voisinage, je vous demande d'adjoindre à la sécurité qui est dans la salle, nous avons été sur le terrain 30 fois pour essayer de régler justement la nuisance que peut entraîner l'activité économique du Express pour préserver la tranquillité du voisinage. Donc c'est vrai qu'on a délibéré sur ce prix-là, qui est un peu en dessous du prix des domaines, avec des sanitaires en hauteur de 100 000 euros, plus ensuite le déplacement du transformateur et l'aménagement de la voirie et des parkings à disposition. Donc on est maintenant bien au-dessus du prix des domaines, il y avait l'intérêt à le faire. L'architecture de ce bâtiment, le permis, vous pouvez le consulter, il est en harmonie. Je vous rappelle qu'en 2014, on arrivait, on a fait reprendre le dossier de permis de construire de l'Express, on a fait rajouter des tuiles qui étaient en harmonie, parce que quand vous êtes en haut, par exemple du surf club, où vous regardez le Super U, vous apercevrez que les tuiles sont en harmonie avec ce qui peut se faire sur l'architecture de la Canoncéan, qu'on a repris les codes de la briquette, et pourquoi pas engager un peu de modernisme dans l'architecture de ces bâtiments-là, avec de la baie vitrée et d'autres éléments. Mais on reprend les codes de l'architecture. Tant qu'un ticket derrière, ce n'est pas un cas isolé. Il y a pas mal de villas qui ont été sorties justement de... Je finis, je ne vous ai pas coupé, vous reprendrez la parole si vous le souhaitez, en fait, Monsieur le Président, mais je vais au bout de mes explications. Quant à la villa qui était derrière, il n'y avait pas peut-être d'intérêt particulier, mais parce qu'on n'en voit pas trop de la voirie, il était de notre intérêt de continuer à envisager la suite sur un établissement alimentaire qui a de plus en plus de succès pour préserver l'intérêt des habitants et de pouvoir offrir à U-Express, qui est en train d'acheter cette parcelle, on n'a rien à cacher, ils sont en train d'acheter. Hein. Et apparemment, alors, je n'ai pas vu passer la DIA, je vous le confirmerai si elle passe.
Justement, c'est ça le fondement du souci, c'est-à-dire que
mais oui.
On s'aperçoit que c'est une question.
Mais vous ne laissez pas finir, je vous ai laissé poser la question jusqu'au bout.
Allez-y, allez-y.
Je vous laisserai vous exprimer. Bon, la suite, c'est votre assemblée, mais j'aimerais bien m'exprimer et finir mon argumentaire. Donc, il est important. On avait sur le côté sud-est aménagé pour que les gens puissent garer, pour préserver la tranquillité des gens qui arrivent autour de la zone. Et aujourd'hui, ça ne se passe pas trop mal. On réfléchit, dans le cadre des nombreuses livraisons du Super U et tout ce qui se passe autour, à améliorer encore les choses. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la problématique du Express ? Ils n'ont pas d'espace de stockage. Et vu les volumes qu'ils dégagent dans l'été, il est notre devoir aussi d'accompagner les privés, je n'ai pas peur de dire, parce que ces relations-là, je les sais, et je les maintiendrai jusqu'au bout, parce que justement, c'est eux qui investissent. Alors, eux et d'autres, bien sûr, la station, beaucoup de choses, beaucoup de gens font des choses très bien, et de plus en plus. Mais il est de notre devoir d'anticiper ces problèmes-là, même si on a réglé depuis l'été dernier les problèmes de cohabitation dans le secteur, parce qu'on est au contact des habitants pour essayer justement qu'il y ait le moins de nuisances possible, on doit imaginer la suite. Tant qu'à ce document-là, j'y reviens, je dois rappeler quand même que le PLU était en gestation depuis 13 ans, quand on est arrivé, et qu'en 3 ans, vous avez évoqué les 600 pages du rapport de présentation. Je ne dis pas que je les connais par cœur, mais j'en connais déjà beaucoup, et qu'on a passé des jours et des nuits à arriver à valider un PLU et pouvoir envisager l'avenir. Parce que le PLU, c'était quoi ? Ben, c'était la transcription des éléments de campagne à travers les orientations d'aménagement dans nos communes d'urbanisme pour que la ville se développe et que, et vous l'avez cité dans vos introductions tout à l'heure, la ville océane puisse avoir une activité comme le Bourg, hein, la présentation de la Gaîté, c'est pour la semaine prochaine, mais ici aussi, on souhaite que cette ville fixe des habitants permanents pour que vous ayez les meilleurs services sur la station et qu'on puisse justement imaginer l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Donc ça, c'est important. Et je le répète, mais ces villas remarquables qui ont été détourées il y a déjà plusieurs années, il y a quelques habitants, quand on est allé sur place, ont constaté que finalement, effectivement, on n'avait pas grand-chose de remarquable, on les a sortis. On n'est pas sur deux villas. Quant à d'autres, qui sans doute se sont trouvés frustrés, mais peut-être après coup, ça fait 10 ans qu'elles sont fléchées, ne se sont pas manifestées. Quand on se déplace sur place sur le refus que vous avez évoqué, ben, ça veut dire que nous avons constaté qu'il y avait des éléments remarquables et que nous souhaitons dans le centre, je pense que c'est celle qui est sur la rue de la Gilles Guitard. Ouais. Voilà. Bon, elle avait un aspect remarquable. Et celles-là, nous souhaitons les conserver. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe sur Perpère, sur Durand, sur Faugère, ben les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que la collectivité investit ? Ben ils refont leur ville à l'identique. Il y a de très très belles réflexions qui se font. Et ça fait partie de notre identité et de notre ADN. Donc ça, il faut le conserver. Mais je précise, et j'en ai déjà évoqué le sujet ensemble, c'est que ces villes remarquables, elles sont intégrées. Laissez-nous un peu le temps de souffler, parce que ça a été la stratégie, le règlement de local de publicité, tous les documents d'urbanisme, le PLU. On a dit, on les marque, et ensuite on se dirige par une DAVA, ancienne ZPP-AUP, mais c'est un gros travail aussi, et c'est très compliqué à mettre en place. Et il faut justement avoir une DAVA qui puisse laisser un peu de souplesse, et engager un vrai débat public avec tous les propriétaires de ces bâtiments remarquables. Et ça, c'est important. Mais à travers le plan local d'urbanisme, il était important pour que pas de bêtises se fassent, de pouvoir les marquer et de pouvoir engager avec les propriétaires des discussions pour basculer sur une AVAP ensuite et pouvoir traiter ces problèmes d'urbanisme. C'était indispensable, on ne pouvait pas se permettre d'avoir... J'en ai eu 15 ou 20 projets de démolition dans le centre-ville pour faire des immeubles. J'ai dit non à chaque fois, on ne sortira pas ces maisons remarquables, on fera une AVAP et on discutera avec les propriétaires de l'avenir sur ces dossiers-là.
On va pas... continuer trop sur ce sujet parce que on aura l'occasion d'y revenir, je pense, peut-être dans la revue ou par des questions directes au maire. Donc la seule chose, c'est que ce sera compliqué là-bas parce que pour le coup, vu le mitage que constituent ces maisons remarquables, là on n'est pas dans un endroit aussi refermé que la ville d'Hiver ou à Soulac ou autre, où là c'est très facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, la VAP, c'est dedans, c'est-à-dire que vous avez un bien qui représente une valeur architecturale conséquente, ce dont vous avez des devoirs, à savoir, tels que par exemple les règlements locaux relatifs à l'urbanisme vous imposent ou vous interdisent certaines choses. En compensation, la commune va aménager l'environnement urbain d'une manière un peu jolie, qui rappellera certains codes pour qu'il y ait une cohérence, et l'État lui-même assurera des facilités fiscales. Donc, or, pour l'instant, on en est loin, donc nous serons attentifs à ce qu'effectivement cette AVAP voit le jour pour compenser, cet inconvénient que connaissent pour l'instant les propriétaires, qui eux, pour l'instant, ont une partie, mais ils n'ont pas la suite. Et nous serons en revanche très attentifs à la façon dont sont traités les dossiers, puisque effectivement, la Villa Margalef n'est pas identique. Donc si vous l'acceptez telle quelle, ça voudra dire que les gens, s'ils ne refont pas des choses à l'identique, ils pourront faire valoir cette, entre guillemets, jurisprudence. Et je pense que ce sera un sujet qu'on pourra évoquer plus tard, parce qu'il y a plein d'autres questions, je pense.
Donc regardez sur les autorisations d'urbanisme qu'on instruit, même sur les villas remarquables, il y a des codes qui peuvent revenir sur une villa à l'identique, dans l'esprit général, mais nous ne sommes pas débouchés.
Voilà. Alors je pense que vous nous avez rassurés en disant « en général ». Ça veut dire qu'effectivement... Quand les gens lisent le PLU, pour eux, à l'identique, c'est à l'identique. Voilà. Donc, ce sera du cas par cas. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, à vous. Maintenant, j'ai lancé le jeu. À vous de...
Moi, j'ai une question à poser.
Mimi.
Voilà, sur les années hors taxes, je remercie la commune d'avoir fait quelque chose pour ces fameuses années hors taxes. Par contre, ce qui a été fait... Vous êtes certainement au courant, c'est très glissant et c'est fendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer ?
Parce que c'est un problème de la casse dont vous parlez.
Les
allers-retards. Oui, la promenade de la casse. Les allers-retards.
La promenade de la casse, voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. Parce que je pensais aux villas. Voilà, donc le béton a été refait, tout est chouette, c'est sympa, mais voilà, c'est très glissant. Et justement, hier, il y a des gamins qui s'amusaient à glisser, si vous êtes promenés, vous avez pu voir. Et une dame est venue me voir, elle était en boîte, elle m'a dit « Mimi, mais ça glisse cette histoire !» Alors voilà, je vous en fais pas. Mais par contre, c'est très joli, et quand il y a de l'eau, moi ça m'a fait penser au miroir d'eau de Bordeaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors merci d'un côté, puis de l'autre côté, il faut voir qu'est-ce qui va être.
C'est pour faire travailler le prochain centre de santé.
Voilà, c'est ça.
Non, c'est vrai, on l'a constaté, vous avez raison. Après, il y a des choses à reprendre, et on va dire la semaine prochaine, on va y réfléchir. C'est tout à fait simple, parce qu'il suffit de gratter, vous avez vu comme le système, et qu'on ne parle que du détournis, et après on y fait des formes, on va mettre des logos de la ville aussi dessus, le chantier est loin d'être fini, puisqu'il y a pris du retard avec cette intempérie. Et on a parfaitement conscience qu'il y a des parties assez glissantes, et dès qu'il pleut, c'est un peu dangereux. Donc on réfléchit à la suite. Et ça sera fait en même temps qu'à la fin des travaux, parce que vous savez qu'il y a aussi des parties à reprendre. Il y a peut-être des arbres, mais ils se sont engagés à la fin du sortir. On reprendra ces parties-là. Et on va changer aussi les luminaires, parce que la société Philips, qui garantit ces candélabres, vont les changer entièrement. Tous les mâts vont être changés, parce que vous avez vu qu'il y a une partie de rouille, donc ils étaient sous garantie. Et ensuite, bon, les barres sont en train d'être mises en place, et après on va avancer les galibelles et finir la croche.
Autre question.
Oui, il y a plus de personnes là.
Merci. Oui, je voulais savoir, je crois qu'il existe une villa remarquable en fond de mer. Le monde entier la connaît, la photographie. Est-ce que vous avez contacté la propriétaire ?
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Villa Princeteau.
Oui.
C'est ça dont tu fais.
Moi, je reste discrète. Nous ne sommes que deux ou trois à suivre les événements depuis de longues années.
C'est très difficile pour les propriétaires de l'entretenir.
Et je sais.
Ils y sont très, très attachés.
Enfin, lui, il est décédé.
Aussi. Mais
pour elle, ça pose un problème.
Bien sûr que nous sommes attentifs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons délibéré la semaine dernière avec l'établissement public français de la tutelle. Nous avons une vision, nous avons une véritable aujourd'hui souplesse et un établissement qui nous accompagne. Maintenant, c'est quand même le domaine privé.
C'est ça le problème.
Vous pouvez compter sur moi, sur le futur propriétaire. Je ne sais pas si ça sera avant un jour, mais aujourd'hui, la collectivité ne peut pas investir sur une villa privée en fond de mer. Bien sûr qu'il faut la sauvegarder, mais la collectivité n'aidera pas financièrement ses propriétaires à sauvegarder la villa. Ça, c'est pas possible, on n'en a pas le droit.
C'est pourtant une villa remarquable.
Après, ça peut être aussi la question, parce que l'État...
Une villa remarquable, oui, je suis après... désolée.
Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison, la seule difficulté, c'est la limite de l'action publique en la matière, et de l'investissement public en la matière. Après, il y a moyen par le biais de fondations ou autres, si on se retourne sur des privés, qui veulent s'investir. Et de monter une structure juridique qui permettrait de préserver le bien.
Ne vous inquiétez pas, elle est sous surveillance. On va regarder. Mais regardez déjà comment nous sommes critiqués quand nous refaisons la ville à l'épingle par quelques heures, parce que la grande majorité des cadres est très contente qu'elle ait repris vie et elle est magnifique. Ça a été un montant important, subventionné, je le rappelle, la moitié par l'État et une autre partie par le fonds de dotation. Mais même ça, ça fait crisper quelques peu. Donc justement, c'est notre devoir de sauver le patrimoine. Cette villa, elle est là aujourd'hui. Sur cette villa privée, c'est beaucoup plus délicat. Mais nous surveillons ça de près. Je sais que les personnes propriétaires ont des difficultés pour la sauvegarde.
Elle fait quand même partie du patrimoine canonique.
Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Et sur l'argent public ne sert pas à rénover.
C'est vrai que tu évoquais Plaisance. Rappelons aussi que le maintien de Plaisance, qui finalement a été repris par la municipalité précédente, on la doit à l'action de quelques-uns, de quelques privés qui sont montés en association et se sont fait entendre et ont défendu ce dossier.
Oui, ils sont toujours là.
Voilà. Donc il y a parfois aussi l'intérêt aussi des privés, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales, de s'investir dans une structure juridique qui peut être, je disais encore, ça peut être une fondation ou autre. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une villa remarquable à plus d'un titre.
Absolument.
Donc c'est évident.
Oui, et je posais la question pour savoir s'il y aurait des solutions, comment on pourrait avoir des aides, des conseils, voilà. Parce que la propriétaire, la couvrette, est en vie. Bon, c'est autre chose.
Oui, parce qu'on rajoute encore la difficulté, c'est qu'on est vraiment en plein front de mer, avec tout ce que ça, oui. Tout ce que ça comporte. Oui.
Oui. Vas-y, prends le micro, Marie.
Non, je disais là, pour ajouter de l'eau au moulin, c'est que les personnes peuvent obtenir des aides autres que l'aide de la ville.
Non, on n'attend pas. Plus près.
Non, c'est bon, il fonctionne.
Non, là, plus près.
Là, vous entendez. Donc, pour ajouter de l'eau au moulin, là, je disais que la personne pouvait peut-être obtenir d'autres aides que celles de la ville.
Ah ben là, il y a des associations, il y a des possibilités. Mais il faut les demander aussi. Il faut que cette personne privée, qui n'est pas une personne publique, donc s'investisse dans sa maison, même si elle est âgée, c'est ce que je comprends. Ben bon,
et si des gens la soutiennent autour, la soutenir dans ce sens-là, justement.
Il y a quelques années, il existait sur la canoë sur l'océan, là, un hôtel qui s'appelait la Primavera.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me donner des infos par rapport à cet hôtel qui a été détruit et on a fait un immeuble à la place? Je remonte loin quand même, hein, mais je remonte.
Oui,
c'était vraiment le patrimoine.
C'était les années 80 et le promoteur était un Tuzara, un basque promoteur qui était venu racheter justement l'hôtel. Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui pour la protection du patrimoine. Et l'hôtel avait été démoli dans un permis de démolir et la résidence avait été construite. Et à l'époque, il y avait quand même des codes architecturaux qui font que cette résidence reprenait à la fois les tons de la villa, je ne sais pas si c'est à peu près la même couleur. Mais c'est vrai qu'on essaie sur une résidence qui a
dommage
des coches. Ah oui, non, mais bien sûr. Enfin, regardez les cartes postales, il y a un beau site sur Facebook, là où je me régale, aller voir toutes les vieilles cartes postales de la Canocéan. Il y en a 300 qui ont été détruites, qui étaient aussi belles que celles-là. Donc, c'est...
Deuxième question, monsieur le maire. Concernant le café maritime, je pense qu'il y a un architecte qui est venu après coup, quand le mur s'est écroulé. Le soi-disant mur.
C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, j'ai expliqué la procédure. J'ai expliqué ce qui s'est passé, ils sont venus le lendemain, ils avaient arrêté de péril, et ils ont expliqué ce qui s'était passé, ils ont fait intervenir les assurances, leur bureau d'études sont venus, et on avait envoyé la police municipale pour constater les faits, et ensuite, bon, ils ont fait le travail. Moi, je ne m'occupe pas des assurances des privés.
La dame, depuis tout à l'heure, demande la parole. Un peu l'autre droit. Pour vérifier.
Oui, j'ai une question sur la nouvelle route qui va se construire. Peut-être que c'est un projet ou ce sera réalisé, je ne sais pas, pour aménager ou pour accéder mieux les parkings de la plage sud, plage de Lyon. Et la question que j'ai, comment vous voulez garder le calme dans le quartier sud s'il y a encore plus de trafic? Une solution, ce serait de faire de la route de Lyon un sens unique, soit accéder les parkings, soit sortir des parkings, et les habitants seraient très contents.
Alors, c'est vrai, madame, que vous raisonnez à l'échelle de votre habitation, et regardez ce qui passe autour, s'il y avait cette rue 30, alors c'est l'Arlésienne, et ça fait... Je vois nos amis Gisson qui sont là dans la salle, donc, l'Arlésienne de la pénétrante sud. Si vous avez regardé le PLU et les préconisations de l'ONF, bon, aujourd'hui, on va faire une autoroute. Ce que je vous invite à regarder, par contre, c'est la communication que va faire la ville et la communauté de communes à travers le prochain plan plage sud, qui va être dévoilé, les travaux démarrant en novembre. On va amener des services. Alors, les services, ce n'est pas les commerces, c'est par exemple les sanitaires, les toilettes. Donc, il y aura une réorganisation sur les parkings. Vous avez.
Je rappelle qu'on avait écrit là-dessus, justement, à la CDC et à l'ONF.
Vous avez à la fois. Les gens, allez, moi je dis toujours la plage de l'Écureuil, la route du Lion, où tout le passage se fait là, et on avait toujours évoqué quelques problèmes de sécurité s'il y avait un grand feu, et que ça serait assez compliqué pour dégager tout le monde. Donc on est sur un aménagement où on conservera le même nombre de places au sud. Mais aujourd'hui, c'est amorce de quoi, parce qu'il existe, hein, bon, elle pourrait continuer. Et la crainte des associations d'environnement et des gens autour, ben, c'était finalement que cette route serve à urbaniser la partie entre la route et ce qui existe déjà. Donc nous avons fait classer en espace boisé toute la partie qui est entre cette route et l'urbanisation. Donc là, il n'y aura pas de problème, mais nous n'avons pas lancé des études pour faire cette voie-là. Maintenant, on est opposé aussi à deux visions, ceux de la route du Lion et la plage de l'Écureuil et des quartiers qui nous disent « il y a trop de passages là, on veut la pénétrante », et ceux qui sont autour de la future pénétrante nous disent « non, non, on ne la veut surtout pas, réfléchissons autrement ». Mais vous pouvez dormir tranquille, le premier coup de bulle, ce n'est pas pour demain, donc même si elle est tracée sur un chemin piste gravée, et on pourrait imaginer justement, dans le cas de la sécurité, d'avoir peut-être une passe, il est hors de question d'urbaniser entre cette future route ou future voie, ça peut être une simple voie calcaire, qui serait qu'une ouverture pour pied dans le futur, et on a l'obligation quand même de réfléchir, et si un jour il y a un peu là-dessus, on va peut-être me dire, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait, elle n'a jamais été réalisé. Mais vous inquiétez pas, on n'aura pas une pénétrante dans les années qui viennent.
De toute façon, lors de la rédaction du dossier de PLU, le responsable régional de l'ONF, François Bonnet, s'est clairement positionné là-dessus. Il veillera bien à ce que dans l'avenir, cette piste serve plus une desserte, notamment d'évacuation en cas d'incendie. Pour ceux qui ont connu les incendies de 89, à l'époque, on a clairement manqué de lieux d'évacuation. Il a fallu aller jusqu'au Porche pour évacuer et utiliser les pistes cyclables. La question se pose, puisque vous évoquiez, vous disiez qu'il ne fallait pas se focaliser sur un point particulier. Justement, je rappelle que depuis juillet 2015, les administrateurs de la Plouse sont à votre disposition pour participer au futur plan de circulation. Parce qu'on voit beaucoup de travaux qui sont faits, et il y a de jolies choses, hein, notamment à Muret-Seguin, etc. On essaie de comprendre la logique globale, et donc depuis juillet 2015, on fait offre de service pour participer à ces travaux. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, la deuxième question, s'il y a moins de places pour se rejoindre, places municipales. Par exemple, dans le quartier sud, il n'y a plus de mini-golf, c'était une très très bonne ambiance, et là, il y a des immeubles dessus. Pas loin, sur la route de Lyon encore, il y a les tennis, les anciens terrains de tennis. Il y avait une petite cabane avec un barbecue et une bonne ambiance les soirs. Et ça, il n'y en a plus. Et j'aimerais savoir ce qui est le plan pour immeuble ou peut-être pour conserver une place, un terrain de tennis et une place pour le public.
Alors, je veux l'entendre, on est la nostalgie du passé, et moi aussi j'ai vécu des formidables moments sur cet endroit-là, mais il faut vivre avec son temps. Terrain de tennis, je vous invite, il y a quelques 300 mètres à faire pour avoir un magnifique endroit où on peut jouer au tennis, qui est rénové, où on vient de mettre les paddles, rénover les squats, rénover le trinquet. Voilà, il est remis à neuf depuis 2014, donc je vous invite à aller jouer au tennis là-bas. Quant au quartier en lui-même, il a une spécificité, c'est un quartier qui m'a toujours interpellé et j'y ai passé de très très bons moments. Aujourd'hui, ces terrains de tennis et puis ces cabanons, c'était une friche. J'ai incité le promoteur. Il y avait un projet de résidence de tourisme qui ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il y aura des maisons. Ce que je souhaite, c'est remettre, et on peut le voir, parce qu'il a été créé à côté du poste de secours, sur un petit point de vente qui est à l'image du quartier, avec des produits frais, des produits bio, des choses comme ça. Et c'est autour de ces endroits-là qu'il va falloir reconstruire une identité. Parce qu'autrefois, bon, je vois que Fredo aussi, le resto, a fait une petite façade assez sympa, d'ailleurs qu'il va falloir qu'il passe à l'urbanisme. C'est très joli, ça respecte les codes, mais il va falloir s'habituer à demander des autorisations. Donc, c'est compliqué et c'est lourd pour nos services, parce que chaque fois, c'est des procédures à mettre en place. Il y en a 65 en cours, de retour du procureur de la République, on commence à s'user un peu. Mais c'est à travers ces endroits-là, chez Fredo, le petit lolo sur la dune, avec ce qui a été fait, l'ambiance de ce quartier-là, avec des gens qui sont depuis des dizaines d'années. J'ai passé un moment de quartier l'année dernière tout à fait sympathique. C'est ça qu'il faut créer. Mais il ne faut pas toujours avoir la nostalgie du passé parce que les tennis et le bâtiment étaient en train de s'écrouler et l'endroit était minable. Donc aujourd'hui, bon, on va avoir sûrement des lots avec des maisons. Mais vous avez aussi un lieu de convivialité extraordinaire qui est le club de pétanque juste derrière. Donc je crois que le quartier est bien desservi en lieu de vie, l'endroit où on va pouvoir profiter de la vie. Mais moi aussi, des fois, j'ai la nostalgie du passé parce que je suis né dans cette ville. Je crois qu'il faut savoir vivre avec son temps. Et à nous, municipalités, associations, de créer ces lieux-là qui nous rassemblent finalement, qui sont des endroits où on se retrouve et on se retrouve entre canoës.
Je
ne
parle pas. Sur la route qui descend de l'ancien cinéma, qui va vers chez le marin, quelqu'un a transformé la maison au coin de la rue Claude Bernard en mettant une sorte de boîte de chaussures noires en hauteur. Et je m'étonne que ça soit un village remarquable. Et je me demandais comment ça se fait qu'il a eu un permis de construire pour un truc aussi hideux. Et si que il a pu finir et le rendre plus joli, ben non, ça reste une boîte noire au premier étage.
Les goûts, les couleurs. Mais je reviens sur ce que vous voyez. On ne peut pas dire d'un côté, il faut être plus souple sur le règlement. Et puis là, vous me dites, mais finalement, ce permis a été accordé. Alors, je le connais bien, ce permis, puisque je m'étais un peu levé contre. Mais il faut savoir qu'un urbanisme, même si aujourd'hui on retravaille tous les dossiers, on demande aux gens, surtout sur les voies passages, les passages, de reprendre les codes, d'essayer de faire des choses sympathiques, le maire n'a pas tous les pouvoirs en urbanisme. Hein. Si vous saviez le montant et le nombre de procès que m'engagent les administrés quand je demande justement de prendre en compte ces éléments d'architecture, on y arrive. 90 fois sur 100, on arrive à trouver un arrangement avec les propriétaires. Bon, ce dossier-là, c'est pas moi qui l'ai instruit, donc c'est un peu difficile. De vous répondre.
La maison de Conce, vous savez. Ah.
Vous voyez, en 2014, j'avais pas de cheveux blancs. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Ah, ça en est. J'ai assisté.
Et les décédés, le père.
Oui.
Je vous fais. Ça va être très rapide parce que si vous aviez suivi un peu la presse, on a redaté. Je vais vous donner deux, trois éléments. C'est 4 ans de procédure, rappelez-vous. Ça fait 4 ans. Ça a été fatigant avec des avocats qui repoussent, qui trouvent toujours un élément, enfin, qui trouvent toujours quelque chose pour essayer d'aller le plus loin possible. Là, on vient d'avoir, on est passé au tribunal le mois dernier sur l'appel, au pénal, parce qu'il y a deux procédures, une procédure pénale et une procédure administrative. La procédure administrative, on a gagné en première instance, mais la deuxième instance n'est pas prononcée, donc c'est sur la conformité du permis de construire, donc il ne pouvait pas, il avait demandé une régularisation, ça n'a pas été possible. Et au pénal, nous sommes passés le mois dernier, où j'ai été très surpris dans le bon sens, dans le bon sens de la plaidoirie du procureur de la République, qui a duré presque trois quarts d'heure. Donc je peux vous dire qu'elle a mis le paquet. Je pense que le jugement nous sera plus favorable que le premier, parce que finalement, le jugement du premier, c'était même pas le prix du terrain constructible. Imaginez le scandale. Bon, c'est bien aperçu pendant ce jugement que les parties se connaissaient et qu'il y avait une éventuelle connivence. Moi, je savais, en rentrant dans la salle pour le rendu, qu'on avait perdu, au sourire des avocats de la partie adverse, donc ils n'auraient pas dû connaître le jugement. C'était un peu compliqué. Donc là, par contre, sur cette nouvelle composition, hein, le président, c'est le conseiller, le procureur de la République, on a bien eu l'impression que la chose était grave cette fois-ci. Et ce qui nous le prouve un peu, c'est la plaidoirie des trois avocats de la Défense, qui ont été mis quand même assez en difficulté, qui étaient moins éloquents qu'en première instance. Donc le jugement, 15 mai. Mais, figurez-vous que ces gens-là, qui ont quand même pas mal de moyens, moi je n'appelle pas la ville de Cosse, je dis à Bénégos, parce que bon, personnellement il est parti, ils iront en cassation. Donc on va continuer, ça va nous coûter encore beaucoup d'argent, parce que prendre des avocats pour la cassation, ça coûte cher, même si nous avons une assurance pour ça, qui nous indemnise d'une partie des frais. Ce dossier me fatigue, on ira au bout, vive la forêt nous accompagne sur cette procédure depuis le début. Je pense que la sanction sera exemplaire le 15 mai, mais ce n'est pas la fin du problème. Et malheureusement, je pense qu'on ira sur l'instance supérieure, on sera obligé d'aller traîner le locataire jusqu'à Paris.
Alors, à titre d'information sur ce sujet, je relaye l'action d'un de nos adhérents qui, à titre privé, s'est adressé au juge. Vous savez qu'il existe une procédure des avoirs criminels qui permet à l'État de se saisir de biens qui sont issus de faits délictueux ou criminels. Ça existe pour les véhicules, pour plein de choses. Et donc, il a écrit au juge en disant, bah, après tout, plutôt que de détruire, pourquoi est-ce que cette maison ne sera pas saisie et confiée, par exemple, à l'ONF pour en faire une maison forestière, un lieu d'accueil pour les écoles, etc.
Cette procédure ne peut pas être saisie. Elle peut être saisie dans le cadre d'une affaire parallèle que la Bénégos, puisqu'ils ont plusieurs affaires en cours, et sur cette affaire en particulier, il ne sera pas possible de rendre un jugement dans ce sens, puisque la propriété privée ne se saisit que s'il y a eu, par exemple, des préjudices pour l'État en matière de fiscalité, ou de choses qui n'ont pas été, ou un jugement du tribunal sur d'autres problématiques que ça a sanctionné. On aurait pu peut-être trouver une occupation environnementale à cette bâtisse. Maintenant, notre action avec l'association Vive la Forêt demande la remise à l'état initial de l'évolution de la maison. Je peux vous assurer que depuis 2014, le nombre de personnes qui rentrent à l'urbanisme quand on vient les chercher sur une clôture, sur une couleur, sur une réglementation du quotidien, à chaque fois on se fait opposer et lui il fait ce qu'il veut. Comprenez, ça commence à être un peu fatigant. Donc le préjudice, il est là, pour la commune, il est important. Je crois que cette valeur d'exemple pourra permettre à nos services de mieux instruire notre permis de construire, non permis de construire dans le futur, d'être un peu plus tranquille.
La rue Gabriel-Dupuis, la première partie particulièrement, parce que les gens qui vont à Carrefour Market, c'est pour quand les travaux? Parce qu'il y a eu des accidents l'été dernier, oui, hein, des vélos tombés.
On arrive, monsieur. On arrive.
Mais pour savoir.
Non, mais on arrive. On arrive depuis 2014. Je dis on arrive, parce que le programme de voirie, il s'est sérieusement accéléré, c'est la continuité.
Les rues sont faites maintenant.
Oui, sauf la vôtre, et bien il y a aussi d'autres rues à l'océan. Je passe à Chambord, je passe à plein d'autres.
Il y a quand même
des priorités. Oui, mais c'est très prioritaire, c'est ça que vous me dites.
Surtout la première partie, là.
Bien sûr que les trottoirs sont en très mauvais état, la voirie. On va arriver vite. Je ne vais pas vous donner de date, parce que je n'ai pas l'habitude de ne pas tenir mes promesses. Et la rue Gabriel-Dupuis est dans le PPI. Voilà.
Je voulais vous demander, est-ce qu'une construction illégale, qui n'apparaît pas donc sur le cadastre, mais qui apparaît sur un plan de tournage, peut être décrite sans permission, sans autorisation?
C'est-à-dire qu'elle n'était pas au cadastre, elle a été construite sans permis, et elle a été démolie.
Oui, elle a été démolie, et elle apparaissait quand même sur un plan de tournage.
Bon. Venez nous voir au service urbanisme, parce que là, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Mais bon, elle peut avoir une existence légale au bout d'un certain nombre d'années si personne n'a attaqué, au bout de 10 ans par exemple. Elle peut avoir une existence légale, maintenant la démolir alors qu'elle n'a pas existé légalement, mais qu'elle est sur un plan de bornage, là le problème se complique. Donc venez au service urbanisme expliquer votre problématique. Ma réponse ne vous a pas satisfait, monsieur? C'est ça, je vous vois. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire demain on va attaquer.
viendrai vous voir quand il y en a qui vont tomber.
J'étais en permanence hier à Plaisance, je suis sorti à 1h de l'après-midi, j'ai eu 25 personnes, venez me voir et on en discute. Je vais à pied sur les chantiers à chaque fois et je sais que Gabriel Dupuis est en très mauvais état.
Il y a de très belles plantes hein, sur le trottoir de l'ancien cinéma. Il y a de très belles plantes, mais des pieds tombent tout à fait.
J'ai vu ça.
Qui n'existe pas.
J'ai vu ça.
C'est dangereux. Par contre, en parlant de travaux, la rue Henri Séguin, justement, quand j'ai cherché mon pain, je trouve que les trottoirs sont un peu hauts. Il n'y a pas de. Non.
On va la démolir, on va aller de toute façon. Regardez toutes les entrées, toutes les traversées, elles sont aménagées, handicapées, et on
leur repère.
Oui, c'est pour éviter que les gens montent en voiture dessus.
Moi, je vais juste une aparté, parce que je vais prendre la rue Séguin très souvent, je vais chercher mon pain. Je suis plus attaché à remarquer et à attendre le passage de Keolis avec le bec qui est tout à fait en haut de la place de Laurent.
Nous avons fait les essais. Avec l'ombus.
Ça passe, oui. Je passe effectivement à prendre Laurent Poin. Et une deuxième remarque pour avoir vu le projet, avant que le projet ait changé, c'est que visuellement, à l'époque, nous avions des emplacements d'handicapés qui étaient dans le haut de la Henri Séguin, au plus près de la place de l'Europe pour aller vers les Allertales. Sur le projet qui est en ligne sur la mairie, les emplacements d'handicapés se trouvent à côté du cabinet médical, donc dans le milieu de la rue. Ce qui va obliger certains handicapés, suivant le profil de l'handicapé, à remonter le rideau à la descente, alors qu'ils étaient très bien placés dans le haut côté de la rue. Là où se trouve l'État.
Voilà, c'est ce aussi que la largeur des trottoirs a été augmentée pour et nous avons rajouté, il y a 2 ans, des places handicapées autour de la place de l'Europe. Et les places handicapées ont été volontairement, je pense, même si elle a pris le médecin et les cabinets médicaux.
Non, mais tout à fait. Ils étaient très bien placés, puisque, je vois M. Demao, les ASVP faisaient respecter les prises de parking, je trouve souvent. Et donc souvent, ces emplacements étaient occupés par les gens, ils n'étaient absolument pas handicapés, mais ils étaient très pratiques parce qu'ils étaient en haut. Donc là, vous,
Monsieur le maire, vous faites la réflexion de la promenade de la casse. Ça va être super. Bon, c'est vrai, je voulais poser aussi la question sur le problème de sa glisse. Vous aurez des ennuis, mais vous avez un projet de restauration, c'est vrai. Quand vous accédez, depuis la fin des allées Hortales, pour accéder à la promenade de la casse, sur la gauche, il y a des bâtiments horribles. C'est laid, c'est même dégueulasse, pardonnez-moi ce terme. Or, vous voulez réflexionner, quel est votre pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces bâtiments immenses? Une année, ça a failli prendre feu, c'est dommage, les pompiers sont venus. Parce qu'il n'y aurait plus rien, on serait obligé de refaire les choses de neuf. Vous voyez bien ce dont je parle. Quel est donc votre projet? Merci.
C'est ce qu'on se dit entre nous, si ça avait pu tout brûler, on aurait refait un bâtiment neuf. Bon, je vais pas m'étendre parce qu'il y a une procédure en cours. Voilà, et le positif, ça fait 3 ans qu'on est en procédure. J'espère trouver un arrangement avec le ou les propriétaires. Donc, je préfère pas trop l'évoquer dans la salle aujourd'hui tant que j'ai pas trouvé d'accord. Et il y a un jugement qui doit être prononcé le 30 avril. Il y a déjà eu un précédent jugement. Maintenant, je préfère qu'on trouve une solution à l'amiable et qu'on puisse, avant l'été, avoir une meilleure vision de ce qui se passe dans le secteur. La difficulté supplémentaire, c'est que dans la copropriété, ça va être très très compliqué entre les différents occupants. Les uns se retournant contre les autres après ce fameux incendie. Donc nous, on n'a pas à y mettre notre nez, mais ça va compliquer justement la gestion encore de ce bâtiment pour de nombreuses années. Donc j'espère que je trouverai une solution à l'amiable avant le 30 avril. Sinon, on ira au jugement et on prendra la décision qui s'impose. Voilà.
Madame, puis monsieur.
Pour terminer sur la promenade de la cave, quand vous allez vers le sud, et que vous voulez descendre sur la plage. Tout l'été dernier, ça a été terrible. Les parents qui ont des poussettes, c'était un parcours du combattant, les personnes à mobilité réduite, pareil. Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour atteindre cette plage surveillée? Merci.
Alors, je n'ai pas mon ministre de la mer, Cazenave, aujourd'hui dans la salle, il aurait pu être encore meilleur que moi sur la réponse. L'année dernière, c'est vrai qu'on a une difficulté, bien qu'il y ait d'autres descentes qui sont aménagées pour descendre les poussettes ou autres handicapés, même si ce n'est pas une entrée qui est homologuée. Cette année, bien sûr, quand on aura fini la promenade, on va aménager la suite. Les travaux vont démarrer puisqu'on va réensabler la plage de repli, on va réajuster les pierres qui ont bougé, puisque vous savez que la stratégie locale met en place à partir du mois d'avril tout ce qui peut se passer sur le front de mer. Et bien sûr que sur ce côté sud, l'année dernière, je suis allé, il y avait un autre passage qui revenait vers la plage. Il était très difficile d'accès, donc c'est de finir les travaux de la promenade
et ensuite de pouvoir aménager. Alors, normalement, c'est les engins qui sont amenés à remonter par là, les engins de plage et de nettoyage, et donc c'est un peu difficile de concilier les deux, mais Hervé est en train de travailler sur le sujet, et avant l'été, on aura un accès aux plages sud qui sera beaucoup plus efficient que celui qu'il y avait l'année dernière.
Monsieur, oui, simplement par rapport aux places handicapées, bon, c'est une bonne chose d'en avoir créé de plus. Prenez notamment le front de mer. Quand vous vous garez sur une place handicapée au front de mer,
pour une personne qui est en fauteuil roulant, vous êtes obligé de remonter sur la route pour pouvoir accéder après à la promenade. Il n'y a pas de pan incliné qui permette de passer du parking directement sur la promenade. Ça, c'est le premier cas. Vous avez d'autres cas de places de stationnement sur lesquelles on n'a pas créé d'abaissement du trottoir pour permettre à une personne à mobilité réduite de descendre de son véhicule, ce qui provoque une marche. Donc moi, j'avais déjà proposé, puisque je suis concerné, j'ai un fils handicapé, j'ai déjà proposé une journée de faire un tour de la ville avec le fauteuil roulant pour voir les problèmes qu'ont réellement les personnes à mobilité réduite. Et je vous prie de croire qu'il y en a beaucoup. La plage sud, qu'on a un label normalement plage handicap, je vous demande de venir avec moi et d'essayer d'aller jusqu'à la plage avec un fauteuil roulant. Alors, oui, au fil du temps, se sont construits, on a tracé les places handicapées qui finalement sont très difficiles d'accès. Sur le front de mer, ben, ça sera résolu, j'espère, dans les années qui viennent, puisque l'étude ADS qui va sortir au mois de juin prend en compte la mobilité, mais aussi la réflexion de tout le front de mer, puisqu'il n'y aura plus de parking sur ces projets-là. On présentera ça, M. le Président, dans les semaines, dans les mois qui viennent. La problématique des handicapés et des déplacements en général sur les portes des personnes à mobilité réduite sur la ville, elle va être évoquée aux alentours du mois de septembre, puisque nous recevons les championnats d'Europe en e-surf. Ce n'était pas neutre pour nous de dire on veut le championnat d'Europe, mais derrière, on va organiser au niveau de la ville des forums qui vont nous permettre justement de réfléchir à la ville de demain, qui pourra prendre en compte ces déplacements et l'accueil des personnes handicapées. Et même si nous avons des difficultés, j'en rencontre pas mal. Je vous raconter une petite anecdote. C'est une dame qui était venue dans mon bureau, on les avait déplacés. Vous rappelez-vous, quand on est arrivé, j'ai fait sortir tout ce qui était panneau publicité sur le front de mer, et on avait les places handicapées avec des grands panneaux à coucher du coucher du soleil. Donc je les avais fait déplacer, je les avais fait mettre en face sur le mur, donc on avait notre place handicapée, c'était tracé au sol, et ça revenait à peu près la même chose. Et la dame était venue me voir en permanence, elle n'était pas très contente du tout, parce qu'elle m'expliquait que, j'ai dit, mais ça ne vous change rien, il y a 5 mètres à faire. Elle m'a dit, non, parce que je reste dans ma voiture et je regarde passer les gens. Donc, c'était une anecdote marrante, mais on doit le prendre en compte aussi, finalement. Quand elle est partie, je me suis dit, ah oui, finalement, son plaisir, c'est de venir là, de voir la mer aussi, de regarder passer les gens. Et ça fait partie aussi des loisirs, des gens qui, finalement, à travers leur voiture, peuvent vivre en société, comme nous, se promener sur une rue. Mais à travers ces forums-là, au mois de septembre, à travers la venue des championnats d'Europe en e-surf, on aura à travailler sur la mobilité de la vie, handicap et autres.
Oui, parce que si on prend les exemples clients, notamment par le front de mer, c'est vrai que lorsqu'on est en. On cherche l'emplacement des possibilités de cheminement avec fauteuil, parce que quand on est de part et d'autre de la voie goudronnée du front de mer, ou bien on a un trottoir qui est très étroit, et de l'autre côté on a un trottoir très large, seulement vu la place prise par les terrasses, il n'y a que peu de places laissées. Et ça, à la limite, mais ça, c'est pas de votre soin à vous, c'est-à-dire que ça date déjà d'un certain temps. À un moment donné, on a accordé une largeur telle aux terrasses qu'il reste très peu de place pour les piétons et, a fortiori, pour les personnes à mobilité réduite.
Alors, parce que c'est vrai que ce mètre 40, il pourrait être élargi, même si c'est la loi. Maintenant, je pense que les commerçants restent à leur place, parce que quelques-uns, ça va coûter assez cher. Mais je regarde ce qu'ils font en front de mer, moi je les regarde évoluer. Quand ils se garent, ils ont des difficultés. Souvent maintenant, ils sont motorisés ou ils sont accompagnés. Donc c'est difficile de remonter. La pente est assez raide. Quand on sort du parking pour revenir sur la route, et après, ils n'ont pas besoin de revenir sur la route parce qu'ils rentrent sur la placette directement. Donc ça, c'est assez agréable. La seule partie difficile, c'est celle-là. Si vous êtes tout seul ou pas motorisé, ben, vous ne pouvez pas monter. Ça, c'est pas possible parce que la pente est trop raide. Donc ça, c'est à réfléchir dans l'aménagement du futur plateau du front de mer, où on pourra avoir un accès mobilité sur toute la longueur du surf club jusqu'au Cayoc, et même sur le parce qu'après, il va falloir retravailler le passage entre les commerces et la promenade de la casse. On aura la plus belle promenade
face à la mer de tout un côté atlantique. Parce que...
Et entre l'hôtel Loya et les Océanides, vous voyez la montée justement.
Ouais, à peine on a fini la case que je t'avais promis, que tu commences à m'attaquer sur autre chose.
Mais
bien sûr qu'on l'a vu.
C'est dommage.
Et oui, il y a des passages encore.
En plus, il y a des places d'handicapés.
On va demander peut-être à la copro de l'Océanie,
propriétaire
de l'hôtel Loya, de financer tout ça.
Non,
c'était une boutade.
Pour la restauration.
Qui couchait tard, je dirais, un jour. Non, mais c'est vrai, il y a une pavée à reprendre, il y a une autre borne.
Il y a des places pour handicapés. Donc, les gens qui sortent avec.
Je remercie les propriétaires de l'Océanine qui ont répondu à nos demandes. Le bâtiment est presque fini d'être rénové, donc je suis très heureux. C'était le dernier, au parti que depuis 2014, tous les bâtiments du Fort de Mer ont été rénovés. Même s'ils n'ont pas tous des codes architecturaux extraordinaires, ils sont là et c'est fait.
Sans les statues sur les cheminées.
Autre chose, hein, la restauration.
Mais pourtant, si on va dire, ben, on va faire bon boss.
Ça, bon.
Oui, alors là, ce petit bout, là, ça sera refait par la municipalité.
S'il te plaît.
Oui. Ah, j'entends.
On va s'attaquer à la remontée déjà.
Et après la descente sur la plage avec des planches.
Et on viendra te
chercher pour aller à la remontée. C'est pas bon crime.
Une question.
Monsieur le maire, bonjour. Agnès Charbonnel, nous habitons au Hugo Site. L'an dernier, vous aviez répondu à mon frère. Que quelque chose allait être fait contre les voitures qui stationnent sur le trottoir tout l'été pour accéder ensuite à la plage des Écureuils. L'été dernier, rien ne changeait. C'est-à-dire les gens mettent leurs voitures sur le trottoir devant les villas tout le long de la route du pont. Entre l'ancien golf miniature et la plage des Écureuils.
Je sais, une jolie rue aussi.
Ça continue.
Que nous avons en fait, madame. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes souvent chez vous dans votre villa et dans le quartier que la police municipale passe beaucoup dans ce quartier-là. On avait mis une règle en place autour de la plage des Écureuils. Ce beau site, c'est vrai qu'ils reviennent aussi derrière se garer. Il était important pour nous qu'ils stationnent sur la voie et pas sur le trottoir. Donc je vais renouveler, mais on ne va pas mettre des plots en bois tout le long de la rue parce qu'on aurait 100 km de voie équipée dans la canon.
Je ne parle pas de la rue site, je parle de la route du Lyon. C'est-à-dire sur les trottoirs,
c'est encore... Alors c'est encore pire.
Parce que là, les poussettes sont sur la rue.
Laissez-nous aménager. Départ des travaux au mois de novembre, si tout va bien. On va faire le plan plage sud et on va aussi réfléchir sur le cheminement jusqu'au parking de la plage du Lyon. Donc je vous ai entendu, on va faire le nécessaire pour qu'il repasse encore plus. Parce que ça devient dangereux, parce qu'il n'y a pas de passage vélo, il n'y a pas de passage piéton, c'est très très compliqué, tout le monde est en milieu de la rue. Donc pardon, je vous avais pas compris, excusez-moi.
Autre question. Oui, sur la gauche.
M. le maire, y a-t-il un congé pour le petit terrain qui est derrière la mairie Alex, en bas de la rue Faugère?
Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, je sais que vous n'êtes pas loin. Ce qui est désolant, c'est que M. Macron soit décédé, que sa villa ait été impactée par une tempête, donc elle est en train de s'écrouler devant. Donc on a une vigilance foncière sur ce terrain-là, c'est la propriété de la ville. Il pourrait y avoir l'équipement public ou autre, hein, puisqu'on a aussi le terrain qui est entre la taverne de Neptune et l'équilibre, qui appartient aussi à la commune. Donc dans le cadre de l'étude ADS, que vous découvrirez les premiers éléments, on va essayer de renforcer cette centralité autour de la place, l'Escour, l'office du tourisme, la place Solero, la place de Gaulle, voilà, tous les commerces ici, pourquoi pas aussi déplacer le marché l'hiver sur la place Lescour, en face de Lescour et sur le square Solero pour avoir une centralité pour pouvoir libérer totalement le parking d'entrée de ville. On a discuté de ça avec les commerçants non sédentaires, on en parlera aux commerçants sédentaires, mais pour l'instant, on essaie de garder ces terrains-là parce que s'il y a des projets qui doivent voir le jour, on préfère avoir cette réserve foncière et pas se précipiter et faire n'importe quoi. Mais par contre, on est aussi vigilant sur la villa, puisqu'elle fait partie de l'emprise derrière la mairie Alex.
Oui, moi, c'est une question, pas uniquement d'urbanisme, mais enfin, peut-être ça rejoint cette question-là. Je voulais savoir si vous avez eu une délibération ou une réflexion sur la question de l'installation des compteurs électriques Linky. Parce que. Moi, je suis intéressé par cette question-là. J'ai, fait des travaux dans ma maison il y a peu de temps, donc j'ai un compteur qui est neuf, dont la durée de vie est estimée à un demi-siècle, et EDF fait un forcing, même plus d'ailleurs, pour remplacer tous les compteurs par ce fameux compteur Linky, dit communicant ou intelligent, qui d'ailleurs, la presse rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes assez graves qui se posent, des compteurs qui ont pris feu, déjà, et d'autre part, le fait que ces compteurs font une intrusion dans la vie privée, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis, par les relevés très détaillés de la consommation qu'on fait. Donc moi, j'aimerais pouvoir, au moins en tant que particulier, pouvoir refuser, si je le souhaite, l'installation de ces compteurs. Donc je sais qu'il y a plusieurs centaines de municipalités qui ont réfléchi ou délibéré, donc je voudrais savoir si à la CANO, comment vous voyez la question, pour permettre aux particuliers qui ne le souhaitent pas, ne pas qu'on leur impose ces compteurs-là, par des moyens qui, quelquefois, sont limites, parce que moi, j'habite dans une copropriété à Bordeaux, et on a eu quelqu'un qui est passé, une entreprise, qui a cassé une porte pour pouvoir accéder au compteur.
Il y a d'autres problématiques. Bon, on est en partie rassuré puisque ça a été apparemment pas plus qu'un portable. Donc, sur ce côté-là, on a des explications avec Enedis, qui est l'opérateur qui nous accompagne à travers les alimentations. La deuxième chose, c'est ça. C'est le problème que vous avez évoqué sur l'intrusion dans la vie de chacun, en disant, bon, finalement, c'est comment vivre, à quelle heure il faut marcher la machine à laver, et si ces données, derrière, seraient uniquement utilisées par l'opérateur, ou seraient pas revendues à des entreprises et qui en feraient commerce, et qui les utiliseraient. Pour l'instant, on a l'assurance que non. La deuxième chose, non, mais moi aussi, j'ai cette inquiétude-là, parce que plus ça va, et plus on est fiché, à la main de petites recherches, bon, on sait exactement comment on vit à travers la recherche sur les réseaux sociaux. Et le compteur accentuerait ce phénomène où, justement, ben, ils auraient des indications sur notre façon de vivre à l'intérieur de nos domiciles. Et c'est ça qui nous interpelle un peu. Donc, si ces données-là sont conservées par Enedis pour en faire un élément du développement durable en disant qu'on va mieux consommer, on va proposer des choses comme ça, voilà. Ces choses-là, bon, on peut peut-être accepter. Maintenant, si nos données, nos façons de vivre s'échappent dans la nature et sont fournies à des opérateurs privés qui s'en servent pour commercialiser des choses, ça me fait moins rire. La délibération, qu'elle soit pas, elle n'a vraiment aucune force. C'est-à-dire que la délibération n'empêchera pas d'installer les compteurs Linky. Les maires qui se sont opposés, aujourd'hui, ils font marche arrière parce qu'ils s'aperçoivent très bien qu'une fois que la machine est lancée et que l'État a validé les choses, les compteurs Linky sont installés chez les particuliers. Effectivement, ça serait beaucoup plus simple de dire bon, mais on prend ou on ne prend pas. Donc, j'autorise ou j'autorise pas. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, nous, on n'a pas la force à travers une délibération de pouvoir installer les compteurs Linky.
Pourquoi
ne pas demander
à
EDF
de les installer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur?
Alors là, je ne suis pas un spécialiste de la prise de
compteur. Parce qu'en définitive, c'est les ondes qu'il y a dedans sur les
forums.
Pas plus qu'à moi.
Je ne sais pas, mais.
Je suis allé sur les forums.
Allez, les forums, s'il te plaît. Les forums, je veux bien l'admettre, c'est intéressant, on va dire beaucoup de choses. Moi, je vous demande de vous rapprocher de l'opérateur qui, à chaque fois, répond systématiquement, parce que vous n'êtes pas les premiers à me poser cette question. Quand l'opérateur, quand un administré m'écrit, je le mets en contact directement avec Enedis, qui amène des réponses et qui ne les fait pas.
J'ai envoyé, moi, sur Bordeaux, j'ai refusé. J'ai refusé l'installation du Linky. Bon, on verra combien de temps ça va durer, c'est évident. J'en suis pas sûr. Mais par contre, si ça avait été à l'extérieur, j'aurais eu beaucoup moins de réticence dans le sens que, déjà au départ, c'est pas une intrusion dans la vie privée, parce que là, les compteurs ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la municipalité ainsi qu'à EDF.
Non, pas la municipalité.
Donc, je ne vois pas pourquoi ils les installent dans le même privé.
C'est pas le même débat.
C'est la même chose. Il appartient à la municipalité, donc c'est pour ça.
Ils n'ont pas traité.
S'il vous plaît, j'ajouterai un détail, c'est que les refusés.
Oh là.
Eh ben oui.
Il
est censé de l'ignorer, vous allez sur Internet.
Voilà.
Y a-t-il une autre question?
Est-ce qu'il est prévu une hausse de la taxe d'habitation spécifique pour les prochaines années?
Ben, il voulait savoir si les impôts allaient augmenter. Donc depuis 3 ans, elle n'a pas bougé, elle n'a pas augmenté de zéro, et pour l'année 2018, c'est la même chose, puisque l'on vous l'a remonté la semaine dernière. Mesdames, ce n'est pas la part communale qui augmente. Le département a augmenté de 10%. Regardez, la taxe communale, la taxe foncière et la taxe d'habitation sont à zéro depuis 3 ans.
Oui, mais l'État va la supprimer.
Pas pour tout le monde. 80% des compétences. Une question sur la gauche, le micro, Marie-France a le jeté, récupéré par... Oui, il a la valeur locative aussi.
J'espère que vous avez vu ou participé au nettoyage de plage hier à la plage Nord. Il y avait un nettoyage de Surf Rider Foundation et moi j'ai participé. Et on a ramassé énormément de déchets plastiques. Alors ma question à la mairie, c'est est-ce qu'il y a des idées, des plans pour réduire les déchets, alors des lois, des idées pour les commerces et les restaurants, ou le meilleur, ce serait l'ACADO ville pilote pour une réduction des déchets, pour faire exemple au monde.
Demandez à McDo de mettre de l'emballage...
On y va, il y a déjà des lois, les poches en plastique sont interdites dans les supermarchés, on est sur des recyclables, il y a déjà pas mal de choses. Après, la municipalité ne fait pas les lois. Hein. Donc, nous, effectivement, et j'ai pas honte de le dire, hein, on dit l'hiver, je ne sais pas si vous avez passé des images d'un plongeur en ce moment sur les réseaux sociaux, on a envoyé le film, qui nage au milieu d'une mer de plastique. La problématique, c'est qu'on a des demandes de toutes les associations d'Ironde, comme on est attractif, on va venir à nettoyer la plage avec un loup, et on pourrait organiser toutes les semaines un nettoyage de plage. Et on sait comment ça fonctionne. À chaque marée, nous amène son lot de détritus et le reprend derrière. Le problème, c'est qu'aller ramasser les déchets sur la plage, c'est bien, mais nous, derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne propose pas de repartir avec. Hein. C'est vous mettez un conteneur à disposition, et puis derrière, vous vous en débrouillez. Donc on fait, et nos plages, elles sont propres, et pendant les vacances de Pâques, et après, le nettoyage général est fait. On n'a presque plus de problème après dans l'été. Mais on ne peut pas ramasser les déchets tout l'hiver sur la plage. Ça serait des tonnes à ramasser et ça serait un coût pour le contribuable à 1 500 euros par conteneur à chaque fois qu'on vient chercher. Mais on ne peut pas... voilà, toute la misère du monde, comme on dit. Mais aujourd'hui, cette action est très très difficile à faire et on ne peut pas engager ces frais-là tout l'hiver pour nettoyer la plage. Donc c'est bien. J'ai regardé cette journée avec attention sur les filles de l'eau. On a laissé faire parce que c'était une association locale. Mais des associations départementales et nationale, on ne peut pas toutes les faire venir sur le territoire. Donc quand c'est une association locale, c'est normal qu'on laisse faire. Et là, c'est les filles de l'eau qui l'ont fait, donc c'était très bien. On ne peut pas accompagner toutes les associations à le faire. Vous aurez par exemple la stratégie sur la promenade de la case, on va être mis par Soft Rider Foundation à partir du mois de juin, avec une série d'explications sur ce qui est fait dans le monde sur l'érosion. Et après, vous aurez un lutrin sur une particularité locale. Donc on va, dans ce sens-là, on met tout un tas d'actions dans la stratégie locale. Il y a ce volet environnemental qui est aussi évoqué, mais on ne peut pas nettoyer la plage tout l'hiver, ça ne serait pas possible. Ça coûte très cher. Pour un effet, c'est une aiguille dans une pelle de foin.
Mais on peut aussi parler de ces actions, ne serait-ce que pour éveiller l'attention et l'esprit citoyen des gens qui aussi laissent du papier, parce qu'il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que les bateaux et les bouteilles. Donc ceci dit, les filles de l'eau, vous les trouverez dans le journal qui vous est arrivé, et Soft Rider Foundation, on les a interviewées pour le journal suivant. Une autre question? Oui.
C'est pas forcément une question, c'est pour répondre à madame, dont j'entends l'accent, un tout petit accent peut-être anglais.
Non, germanique.
Alors, germanique. Ah, bon, je pensais que c'était plutôt anglais. Ramasser les détritus sur la plage, c'est très bien. Avoir une politique pour la commune, à mon avis, c'est très bien aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'hiver, les déchets, quand on se promène, ils ont des consonances espagnoles. Alors, j'ai une oreille qui n'est pas géniale, mais je sais pas les lire. Et c'est surtout l'Espagne. Alors, je ne jette pas la pierre sur l'Espagne, mais c'est les courants qui font ça. Mais en fait, on ramasse les déchets qui sont espagnols. Et ça ne nous empêche pas d'être citoyens, hein, pour ne pas laisser les plages sales. Mais à cette époque-là de l'année, c'est l'Espagne.
Tu as raison de parler d'Espagne, hein. Mais ils ont été condamnés par l'Europe pour ça, et on connaît les décharges à ciel ouvert qui sont poussées à la mer depuis des années sur les côtes de Galice et compagnie. Donc ça évite de se faire condamner, on va être rattrapé par la marée, et on sait que les courants du golfe de Gascogne ben, nous ramènent finalement sur nos plages à nous, et certains de ces tonnes de détritus.
Tout à fait. Et là, je vous renvoie encore à notre revue, décidément, on est toujours d'actualité, sur cette problématique des déchets espagnols et les initiatives menées par des enfants, par des écoliers espagnols et des associations locales. Donc ben, vous pourrez lire cet article. Cet article a été fait suite à une question qui vous a été posée par une adhérente qui a vu arriver une espèce de petit bateau en bois ici sur la plage. Et donc on s'est renseigné. Puis voilà, donc c'est en page 16 de notre revue.
Les Espagnols ont déjà pris le problème, puisque là dans l'article, c'est Pupuchoa qui a avec Surf Rider Foundation. Et la mairie de Biarritz est également partenaire, puisque Biarritz a exactement la même problématique, il se trouve dans le plat du golfe, et donc il récupère régulièrement tous les déchets espagnols qu'il vient de traîner. Voilà. Donc c'est aussi, les Espagnols s'y mettent un peu tard, par le biais des enfants, mais c'est vrai que les Espagnols, les grandes heures des décharges publiques à Bilbao, on balance tout à la mer en disant, comme dans les départements d'outre-mer, la mer est nourricière, donc tout ce qu'elle a donné, elle va le reprendre. Et hop, on balance à la mer. Voilà.
Alors, on va arriver vers les dernières questions. Oui, Nathalie.
Oui, toujours sur l'environnement, nous avons constaté cet hiver de nombreuses coupes rases dans les bois entre la Cano-Ville et la Cano-Océan, en particulier en face du golfe de la Méjane, derrière le Gap. La question que se posent certains adhérents et certains voisins, c'est est-ce que ces bois sont la propriété de l'ONF ou de la commune ? Est-ce que sur ces bois, la replantation de la pinède est prévue ? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Si c'était sur la commune, je vous aurais donné ma démission dans la foulée. Non ? Vous ne pensez pas ?
Oui.
L'ONF, l'Office national des forêts, avec nous avons des partenariats sur les plages partout, on travaille de concert depuis le début de ce mandat. Voilà, tout se passait très bien et on avait décidé d'un commun accord en début de mandat que chaque fois qu'il y avait des coupes rases, on essayait une bande de 10 à 15 mètres. Alors, c'est ce qui avait été fait, regardez où est le coupe rase aujourd'hui, juste avant. Ils ont coupé il y a 2 ans, ils avaient laissé une bande de 15 mètres le long de la départementale et tout était parfait, même si il y a la coupe rase derrière, on a toujours cette impression de forêt. Et là, en 2 jours, on nous a coupé même les perles entre la piste cyclable quand on rentre dans le Lugal, hein, ça cachait un peu la misère de la base des stations, qu'on va repeindre d'ailleurs la semaine qui vient. Et ça permettait de rentrer dans le Lugas sur une première partie de végétation et toute la partie du virage et face au golfe. Alors là, ça a été. Il y a eu la guerre chez vous. Donc ça, mais ça a provoqué la semaine d'après une réunion en mairie avec François Bonnet, le directeur de l'ONF, avec qui, il faut trouver les mots justes pour leur parler. On n'était pas là pour leur faire la leçon, mais puis, pour leur dire qu'ils avaient fait n'importe quoi. Où il s'est dit. Il s'est excusé et finalement a parlé d'une petite erreur de gestion dans la façon de procéder au groupe. Maintenant, le mal est fait. On va être obligé de vivre avec ça pendant quelques temps. Il faut savoir que quand les sols se régénèrent après les coupes, ils ne savent pas encore comment faire des souches. Mais il faut à peu près 2 années pour pouvoir replanter, quand on part en production. Donc on réfléchit à ce que justement, parce que quand ils coupent, ils laissent aussi les arbres, mais comme ils coupent avec des machines, les arbres qu'ils ont laissés sont tous endommagés, coupés, cassés. Donc là, ils vont intervenir avant l'été pour tailler ces arbres-là, nettoyer le site, au moins qu'il y ait un effet propre quand on arrive dans le virage. Et ils nous ont promis qu'ils ne reviendraient pas ce genre d'opération. Mais je vous avoue que j'ai eu un coup au cœur et que ma colère a été longue à se dissiper.
Donc, ce sera replanté dans 2 ans, dans 2-3 ans, ils vont replanter.
C'est une forêt de culture.
Tant mieux pour nos enfants et nos petits-enfants.
Alors, encore dans les dernières questions, une fois, deux fois, trois fois. Alors, je
Je vais en finir, pour remercier M. le maire, je finirai donc par un regret, un espoir et une précision. Le regret, j'ai vu, donc on nous a passé une copie du Bon Coin, comme quoi la mairie vend l'ancienne crèche, tant mieux pour les finances publiques, pour certaines associations, puisque sont aussi parmi les adhérents, regrettent qu'il n'y ait pas une maison des associations, un espace, un lieu, un local. C'est vrai que tout le monde ne va pas jusqu'au pôle de l'Aiguillonne. Parfois, ils ont du matériel, ils ont des choses comme ça. C'est un sujet, à savoir qu'il n'y ait pas une espèce de maison des assos, un local, des petits locaux. Surtout que ça devient un peu assez compliqué, puisqu'effectivement, les possibilités se réduisent. C'est un appel dans le vide, une bouteille à la mer, mais si vous pouviez entendre ce sujet. Un espoir maintenant, l'espoir, c'est que j'ai bien compris que la Villa Margalef constituera une jurisprudence en termes de maisons remarquables, donc les propriétaires de maisons dites remarquables, que ce soit de la rue Gardin ou de la rue Guittard ou de plein d'autres rues de la commune, pourront être plus sereins puisque l'application sera pas aussi identique. Je l'ai écrit sur le PLU.
Sur ce que j'ai ça, monsieur le président, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui.
On va marquer au patrimoine.
Oui.
On ne va pas laisser penser aux gens qu'il y a une certaine souplesse et que finalement, non, c'est pas ça.
Ah, bah pour le coup, quand on voit la Villa Margalef, c'est qu'on voit que ce n'est pas une certaine souplesse. C'est carrément une terrasse qui était en hauteur avec un escalier qui carrément a été supprimé.
C'est pas sur la Villa, sur la terrasse.
Ah, bah.
Sur les éléments
d'architecture. Oui, oui. Donc, on est carrément sur une maison qui a été complètement modifiée. Je ne parle pas des petits murets autour, etc. Mais je veux dire, tant mieux. Pour moi, au contraire, je suis content pour tous ces propriétaires que vous ayez une attitude, j'allais dire, très ouverte sur le sujet. Et que la notion d'identique soit assez large. Parce que là, pour le coup, on n'est pas sur une petite différence. Mais donc, pour moi, c'est un véritable espoir pour l'ensemble des gens qui ont une propriété remarquable. Ensuite, donc, nous avons questionné nos 600 adhérents par newsletter sur les questions qu'ils souhaitaient poser, quand bien même ils n'auraient pas pu être présents au cours de cette assemblée générale. On avait beaucoup, beaucoup de questions. Donc, si vous le permettez, nous allons les envoyer à vos services, qu'ils aient le temps de les étudier, qu'ils puissent donc, vous donner quelques réponses. Et ensuite, nous prendrons rendez-vous avec vous pour discuter de ces questions et de ces réponses, et que nous ne manquerons pas de retranscrire dans nos médias respectifs, si vous êtes d'accord. Je vous remercie.
J'ai bien entendu la demande par rapport aux salles de mise à disposition des associations. Ça se fait déjà pas mal hein, à travers quelques associations, sur les écoles, mais on a y réfléchi aussi, on a quand même pas mal de salles à disposition. Mais peut-être avoir aussi sur quelques accords ce qui nous en manque. Mais aujourd'hui, quand même, on a le pôle, même s'il est à la ville à 12 km, et qui quand même est un équipement qui est quand même assez occupé. On doit pouvoir aussi créer quelques aménagements, peut-être sur les équipements de la ville Océane, pour pouvoir recevoir les associations. Donc nous, à chaque fois qu'il y a une demande qui est faite, hein, Cyril Renaud est dans la salle aujourd'hui, qu'il y a une demande qui est faite, on essaie d'y répondre le mieux possible, et on a des salles qui sont mises à disposition. Donc quand je reviens à la crèche, celle-là a coûté, je vous rappelle, 1 000 000 d'euros. Donc ça serait encore un problème de riche, et finalement l'autre, mais finalement on va mettre à disposition une association, on va la refaire, parce qu'il faut la refaire, et on va refaire la toiture, on va refaire les peintures, on va la remettre en scène, et puis finalement, donc je crois qu'il y a une responsabilité au niveau, hein, tout à l'heure, qu'on n'avait pas augmenté les impôts depuis 3 ans, on fait beaucoup d'investissements, c'est encore 11 millions cette année, 11 millions l'année prochaine, mais il faut quand même valoriser le patrimoine, ce qui sert à la collectivité, on conserve, ce dont on n'a pas besoin dans un quartier finalement, où il est un peu compliqué de se garer, et un peu compliqué aussi d'y mettre des salles associatives. On préfère recentrer sur le centre-ville, j'ai parlé tout à l'heure, j'étais interrogé sur les terrains qu'il y a derrière la Villa Plaisance, qui est à côté de la taverne Neptune, on peut peut-être imaginer d'y construire une salle qui puisse répondre aux besoins des associations. Et la crèche, on va essayer d'éviter de se créer des frais de fonctionnement et des investissements supplémentaires. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais boire un petit verre avec vous. Mais c'est l'anniversaire d'une de mes filles et j'ai promis que je serai autour de la table à l'heure. Donc je vous souhaite très bonne journée.
Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre le buffet traditionnel et à tout de suite.